Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de civilisation, de science, de création et notamment de découvertes scientifiques, d'élaboration de concepts et de théories scientifiques. Et puis, comment se fait-il, notamment pour la civilisation arabo-islamique, et le arabo ici, c'est simplement parce que la langue d'expression était la langue arabe, ben, tout cela a dû stagner. Nous essayons de comprendre avec le professeur Ahmed Jabbar. Ahmed Jabbar, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes professeur émérite des sciences et technologies de l'Université de Lille. Vous êtes chercheur, mathématicien, histoire des sciences, membre de l'Académie algérienne des sciences et technologies, auteur de nombreux ouvrages sur la science arabe en contexte islamique. Sans apologie mièvre aucune de ma part, la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel est au mieux objet de débat, sinon méconnu encore et insoupçonné par certains. Pourtant, vous avez commencé tôt, passé à peu près une quarantaine d'années dans le domaine de la recherche et il y a des choses à connaître et à savoir.
Oui, tout à fait. Surtout que si on sort uniquement du domaine de la spécialisation où j'ai sévi pendant 40 ans et qui ne concernait, pour ce qui me concerne, que les mathématiques et les sciences dites annexes ou bien se nourrissant des mathématiques, depuis, disons, une cinquantaine d'années, les résultats nouveaux de la recherche ne laissent aucun doute quant aux contributions à différents niveaux de cette civilisation globalement sur le plan de la science, science comprise évidemment selon la terminologie ancienne qui englobait les sciences qu'on appelle exactes aujourd'hui, mais avec quelques ajouts liés évidemment à la tradition, à l'influence de la tradition grecque, et qui sont en particulier, d'un côté la philosophie, et à l'opposé complètement l'astrologie. Voilà.
Alors, l'astrologie, à ce moment-là, était une sorte d'astrologie savante qui confine à l'astronomie.
Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, il y avait deux types d'astrologie, deux types de pratiques astrologiques, comme il y avait d'ailleurs deux types de pratiques mathématiques ou médicales. Il y avait l'astrologie dite populaire, dite traditionnelle, pour ne pas porter de jugement, et l'astrologie dite savante. L'astrologie savante, elle a tout fait, en particulier pour la période que je connais, pour se raccrocher à une discipline dont le caractère scientifique n'a jamais été remis en cause, ni par les philosophes, ni par les théologiens, ni par les pouvoirs politiques, c'est l'astronomie. Donc à partir du moment où l'astrologie va être, disons, un domaine d'application d'outils scientifiques, donc elle va avoir la prétention d'avoir une qualité scientifique. En tout cas, les astrologues vont tout faire pour être à la page de l'astronomie, pour pouvoir vendre leurs produits, l'astrologie. Et plus l'astrologie utilisait des techniques réellement scientifiques, mathématiques d'ailleurs et astronomiques, plus elle avait de crédibilité, du moins c'est ce que pensaient les astrologues.
Alors, tout au long de l'émission, si vous voulez bien, Ahmed Jabbar, nous allons avoir trois temps. Le premier est celui de l'éclosion, de l'émergence, comment cet engouement, l'enthousiasme pour l'activité scientifique a surgi en contexte islamique. Et après, nous verrons par la suite la phase de création et d'invention. Et nous finirons ensemble par essayer, c'est vous qui allez essayer de répondre à la question, qu'en est-il maintenant et quelle est l'énigme, quelle est la réponse à l'énigme qui fait que tout cela finalement connaîtra une stagnation puis une décadence. Alors, l'éclosion.
C'est plus facile de répondre à cette question parce que nous avons beaucoup de documents. Et puis parce que dans cette question, il y a des réponses factuelles. Alors que pour la dernière question, ce sont beaucoup plus des hypothèses, des analyses, on y reviendra. Alors, ce qui est factuel, c'est très simple. C'est que, contrairement à ce que l'on peut lire encore dans une certaine littérature, imprimée ou bien numérisée, vue et écoutée, voilà, médiatisée, comme on dit, ce que je vais résumer n'est pas un miracle lié à la religion. Même les acteurs du moment n'osent pas dire ça. Ce n'est pas le résultat d'initiative d'une partie de la cité islamique, en particulier on insiste beaucoup sur la partie persane ou sur la partie chrétienne, pour dire que s'il n'y avait pas ces deux acteurs, il n'y aurait pas eu de science. Bon, ces affirmations ne sont même plus considérées comme des hypothèses aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il est nécessaire, bien sûr, de les contextualiser dans une problématique beaucoup plus large, qui, grosso modo, se résume de la manière suivante. Premièrement, il y a eu, à un moment donné, des demandes objectives de la société, mais paradoxalement, pas pour consommer de la science, mais pour résoudre des problèmes que se posait la nouvelle société, ou du moins ceux qui dirigeaient cette nouvelle société et qui étaient garants de sa culture, entre guillemets, de son idéologie et de son destin politique. Alors, la première demande n'était pas scientifique. Elle était théologique. Et elle était aussi politique. C'est que, nous le savons aujourd'hui, grâce à des documents indiscutables, que très tôt, l'islam, en tant que projet nouveau, en tant que projet à la fois religieux, projet sociétal, projet culturel, va être remis en cause, au début plus ou moins discrètement, puis d'une manière beaucoup plus dynamique et organisée, par deux grands mouvements, si j'ose dire, le paganisme, les partisans du paganisme, en particulier le paganisme persan, et les minorités chrétiennes, qui étaient des minorités très fortes sur le plan culturel et sur le plan sociologique.
Et là, on est moitié du 8e siècle.
Voilà, fin 8e siècle, la seconde moitié du 8e siècle. Et cela va durer, c'est pour montrer que ce n'est pas un accident, cela va durer tout le 9e siècle et jusqu'au milieu du 10e siècle. Alors, comment cela va se concrétiser ? Ça va se concrétiser par une réaction du politique pour stopper cette offensive qui était destructrice. Et une des conséquences, et ça permet d'éclairer beaucoup plus le portrait de certains acteurs qu'on a qualifiés de telle ou telle chose. Une des conséquences, c'est le rôle joué par les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites sont un mouvement qui n'est pas un mouvement contestataire à l'origine, qui n'est pas un mouvement gauchiste, comme on dirait aujourd'hui. C'est un mouvement religieux, mais d'intellectuels, d'une élite, qui était la seule à cette époque-là, compte tenu de sa formation, etc., à pouvoir précisément apporter une réponse au pouvoir politique pour contrer les offensives païennes et chrétiennes contre le socle de l'islamité. Et c'est comme ça qu'il y a eu donc un développement de quoi ? Eh bien, du premier phénomène de traduction d'ouvrages qui ne sont pas des ouvrages astronomiques et mathématiques, mais des ouvrages philosophiques.
Oui, parce que le mouvement des Mu'tazilites était un mouvement aussi rationaliste.
Exactement. Or, à partir du moment où certains entendre le mot rationaliste, ils pensent automatiquement rupture avec les préoccupations religieuses. Mais c'était le contraire, c'est comment utiliser la rationalité, comment l'organiser, comment la codifier pour qu'elle soit une arme pour défendre précisément le corpus religieux. Ça paraît paradoxal comme cela, mais c'est ce qui s'est passé puisque les premières initiatives ont concerné d'abord la traduction des topiques d'Aristote, qui est l'outil principal, les spécialistes le savent, à cette époque-là en tout cas, du moins pour les chrétiens avant l'avènement de l'islam, pendant plusieurs siècles, l'outil pour débattre selon des règles acceptées par les élites pour défendre ses idées et puis contrer les idées des adversaires. Voilà. Donc ce sont les topiques. Puis ensuite, ont suivi d'autres traductions, en particulier la métaphysique et la physique d'Aristote. Alors on peut se demander, mais pourquoi la physique en particulier ? Parce que la physique, c'est de la science. Ou du moins une phase de la science. Une phase de la science. Bien, c'est pas une science technique, mais une science quand même très solide. Eh bien, tout simplement parce que dans les débats ne vont pas intervenir seulement des questions strictement liturgiques ou strictement historiques ou strictement théologiques. Vont intervenir des questions qu'on appellerait aujourd'hui philosophiques, mais qui sont abordées dans les corpus religieux musulmans. en particulier le ciel, en particulier les structures de l'univers. Et là, il était nécessaire d'appeler au secours Aristote.
Et on passe alors des traductions d'œuvres philosophiques aux autres traductions dans le sillage et dans l'engouement général où là aussi le besoin se fera sentir pour aller à une philosophie de la nature en quelque sorte.
Alors il nous semble aujourd'hui, chercheurs entre guillemets, que ce sont les deux facteurs. Et vous avez bien pointé les choses. C'est d'abord la dynamique, pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête? Ensuite, il y a les besoins sociétaux. Ces besoins sociétaux, au début, n'étaient pas des besoins, c'était deux types de besoins, pardon. C'est les besoins d'une société n'importe laquelle, profane ou religieuse, mais qui avait besoin d'avoir des réponses à des problèmes de la vie de tous les jours. Problèmes de transaction, problèmes de comptabilité, problèmes hydrauliques, avec des éléments scientifiques ou pseudo-scientifiques, problèmes de météorologiques, qu'on ne maîtrisait pas, mais on essayait de demander aux astronomes de trouver des réponses, problèmes de géographie, qui n'était pas entre les mains de géographes, qui n'existaient pas, mais entre les mains des astronomes. Mais ça, c'était une demande de l'État. Et puis, des problèmes culturels. C'est une nouvelle cité avec un pouvoir dominant qui doit faire valoir la nouvelle religion, en particulier au niveau du quotidien. Mais au niveau du quotidien, se sont posées des questions très simples qui sont comment se diriger pour faire la prière? À quel moment doit-on faire le ramadan, puisque nous sommes pendant le ramadan? Comment déterminer les moments des prières au quotidien? Eh bien, ce sont des questions qui semblent être anodines ou qui semblent se contenter des réponses approximatives parce que, après tout, en islam et dans les autres religions monothéistes, Dieu est clément au miséricordieux. Il efface les erreurs quand il y a une bonne intention. Eh bien, non, il y a eu des élites. Et là, on revient au côté sociologique. Il y a eu des élites qui, tout en étant musulmanes, vont exiger, ou du moins vont demander aux scientifiques, pouvez-vous nous aider à être meilleurs musulmans que d'autres, si j'ose dire. C'est-à-dire de manière scientifique.
Pour illustrer vos propos, le meilleur exemple dans le cas de l'observance de ces pratiques cultuelles, il y a l'exemple de la prière. Autant pour certaines, leur horaire ne pose pas de problème. En revanche, celle dite du zénith ou du midi et celle qui est au cœur de l'après-midi, il y a un lien avec le gnomon.
Absolument. Alors, ils ont fini par régler la première. Bon, parce que quand même, le prophète a laissé des instructions. Il a même laissé des instructions pour la deuxième, qui est la plus difficile, que vous avez pointée, qui est celle qui est entre le midi, bon, qu'on peut repérer grosso modo, en fonction des latitudes, et puis celle du coucher du soleil, qu'on peut repérer aussi. En fait, pourquoi? Parce que parmi les cinq, quatre avaient des réponses de type astronomique. Et il suffisait d'observer approximativement, en regardant bien quel est l'état de la lumière du jour, quel est l'état de la position du soleil, etc. Celle que j'appelle celle de 4 heures, parce que je suis né dans une région où c'était autour de 4 heures, celle de 4 heures posait problème. Alors le prophète a donné une solution. Mais cette solution, il l'a donnée pour Médine. Elle peut être tout à fait valable approximativement, mais lorsque l'islam va devenir mondial, va devenir impérial pour raison politique, mais mondial sur le plan géographique, puisqu'il va être vécu et pratiqué sur 3 continents.
On parlait d'un empire monde.
D'un empire monde, absolument. Donc, un musulman de Samarcande, il n'a pas la même réponse qu'un musulman de Grenade ou de Tlemcen. Donc, il lui faut une réponse circonstanciée, disons, liée à sa demande particulière. Et bien, ce sont les sciences qui vont essayer de répondre à ça. Et donc, on va même dire aux gens, du moins je le suppose, parce qu'il faut bien qu'on suppose des choses. Les astronomes, quand on leur a posé ces premières questions, la question a été posée de manière très simple, et les astronomes très vite ont dit, nous n'avons pas de réponse dans l'état actuel de nos connaissances. Il faut nous laisser le temps de fabriquer des outils. Ben, ils en sont arrivés jusqu'à fabriquer un outil puissant, qui est un des éléments de l'apport de la civilisation de l'islam, qui est un chapitre des mathématiques qui s'appelle la trigonométrie. Bien sûr, elle a ses origines en Grèce, ses origines en Inde, mais le chapitre va se développer en pays d'islam. Voilà un exemple.
En l'espèce, le gnomon, pour cette fameuse prière que vous appelez la prière de 16 heures, et il faut que l'ombre ait la même longueur que la taille, mais il ne faut pas que ça dépasse deux fois aussi la taille.
Ça, c'est ce qu'avait suggéré le prophète. Il avait suggéré que lorsqu'on prend une tige, c'est le gnomon, une tige, qu'on le fixe soit au sol, soit au mur, on voit qu'à midi, à peu près, il a un certain nombre. Bien.
Et pour la prière du midi, il faut qu'elle soit la plus courte possible.
La plus courte possible, tout à fait, tout à fait. Je ne voulais pas rentrer dans les détails techniques. Bien. Mais disons qu'on finit par savoir quelle est la plus courte possible à un moment donné. À ce moment-là, on attend que la longueur soit exactement la longueur physique de la tige qu'on a, comme c'est proportionnel mathématiquement, géométriquement, quelle que soit la longueur, à ce moment-là, quand ça arrivera à cette longueur, alors le prophète a dit, vous pouvez commencer la prière. Mais il a dit, attention, lorsque ça sera deux fois la longueur de la tige, eh bien, il faut s'arrêter parce qu'il faut rentrer dans la préparation de la troisième prière. Bon, mais plus tard, on va donner des réponses qui demandent des formules mathématiques.
Bien. Voilà un exemple de demande d'ordre religieux qui font avancer la science, et notamment tout ce chapitre des mathématiques et la trigonométrie. Et les autres disciplines, alors, Ahmed Jebal ?
Eh bien, voici un exemple de réponse à une demande sociétale. C'est l'optique. Il y a eu maintenant des recherches depuis un certain temps, et puis il y a eu aussi quelques indiscrétions de quelques auteurs qui ont laissé des remarques. Parfois, les remarques sont très importantes. Alors, c'est la question de comment résoudre un problème qui s'est posé pour les militaires. Bon, il y a une partie de légende dans ce que je vais dire, mais il y a une partie réelle. Les militaires, déjà du temps d'Archimède, donc mort en 212 avant Jésus-Christ, de Syracuse, donc normalement grand mathématicien de Syracuse, mais surtout ingénieur militaire de Syracuse. Syracuse assiégée par les Romains, par la flotte. Alors, une légende s'est constituée affirmant qu'Archimède avait conçu un miroir qui pouvait brûler les bateaux ennemis à distance. Bien. Nous savons aujourd'hui.
Les miroirs ardents.
Voilà, les miroirs ardents, très bien. D'ailleurs, les Arabes vont traduire exactement, mot à mot, le terme grec. Bon, maintenant nous savons que c'est une légende, mais n'empêche que cette légende, eh bien certains, même dans le domaine scientifique, y ont cru. Soit par conviction vraiment, soit par intérêt. En tout cas, des hommes politiques, des militaires y ont cru. Puis il y a eu le fameux déclin de la période grecque. Et puis arrive la cité islamique. Au IXe siècle, donc il y a une puissance qui résiste au pouvoir musulman. La seule qui résiste en mer, c'est la puissance byzantine. Elle va résister en mer jusqu'à 1453. Bien. Elle va résister un peu sur terre, mais enfin, bon, elle va être un peu encerclée. Mais en mer, c'était la puissance de la Méditerranée orientale. Et donc, l'idée a germé, ou alors un mathématicien habile, ou un astronome, a dit, tenez, on lit dans les textes quand même grecs, qui sont des gens sérieux. C'est de là que vient 90% quand même de la science et de la philosophie, pour les musulmans, pour les citoyens de l'islam, pardon. Parce qu'il n'y avait pas que les musulmans, etc., etc. Il faut le dire aux auditeurs.
Des zoroastriens, des
voilà.
Chrétiens.
On est obligé de dire les musulmans et on est obligé de parler de science arabe ou arabo-musulmane. Bon, mais vous avez bien défini au départ, disons, la convention des chercheurs. Eh bien, ils ont réussi à convaincre des hommes politiques, nous sommes au IXe siècle, des militaires, qu'il fallait retrouver le travail d'Archimède. Donc on a commencé à chercher tous les travaux d'Archimède. On n'a rien trouvé. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des recherches à partir des écrits qui étaient restés et qui étaient des prolongements de ce qu'aurait fait Archimède. Bon, des écrits d'Euclide sur l'optique, des écrits d'Apollonius sur l'optique, etc. Et c'est comme ça qu'une branche de l'optique s'est développée à Bagdad d'abord, puis ensuite dans plusieurs villes de l'Empire musulman. Cette branche, son but stratégique, c'était de retrouver le principe du miroir ardent, de le réaliser technologiquement et d'espérer un jour battre les flottes byzantines. Ils ne réussiront pas. Mais ils feront des progrès extraordinaires à l'optique, d'abord antique, puis l'optique dite arabe.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Ahmed Jebbar pour parler de la science en contexte islamique. La science avec cette contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Soulignons qu'ici, arabo ne veut rien dire d'autre que la langue véhiculaire du savoir fut la langue arabe, mais les composantes de l'Empire étaient de toute confession et aussi de toute souche, comme on aurait dit aujourd'hui. Il y avait les Perses, il y avait des Grecs aussi qui y vivaient, et puis les différentes confessions. Ahmed Jebbar, vous êtes professeur émérite à l'Université des sciences et technologies de Lille, chercheur, mathématicien, historien des sciences, membre de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Ma question, c'est que il va y avoir la phase, elle a eu lieu de traduction et puis les réponses aux demandes, et après il va y avoir une phase de création et pas de consolidation, mais en tout cas une sorte de floraison de l'activité scientifique. Quelques exemples pour l'historien des mathématiques que vous êtes. L'exemple classique est celui de l'algorithmus des latins, d'Al-Khawarizmi.
Tout à fait. Alors, pour résumer, à partir de la première phase, qui était une phase de traduction ou de récupération de savoir-faire ancien sans traduction, mais uniquement les récupérant dans les milieux professionnels, dans les corporations de métiers, par exemple, on appellera ça du savoir-faire, même quand c'est astronomique ou mathématique ou médical. Mais sans attendre la fin de cette phase de traduction, qui a duré quand même un siècle et demi, eh bien, on voit apparaître une dynamique. On ne connaît pas les débuts de la dynamique, comme d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, on ne connaît pas les débuts de toute dynamique. Parce que les historiens ne commencent à s'intéresser à une dynamique que lorsque, eh bien, il y a l'éclosion des fleurs. C'est comme en botanique ou en agriculture. Et donc, cette éclosion, on la voit au début du IXe siècle. Vous avez évoqué très justement, la première éclosion, ce sont les premiers ouvrages écrits en arabe qui contiennent des choses qui ne sont pas originales, comme d'ailleurs l'arabisation du calcul indien, avec le système décimal positionnel. C'est grâce aux mathématiciens de cette région qu'on va faire circuler un savoir qui était localisé en Inde et un peu en Perse, et qui va devenir un outil international jusqu'à aujourd'hui. Bien. Mais il y avait aussi déjà les premières innovations. Une première innovation, c'est la première carte de géographie dite arabe, commandée par Al-Ma'mun, le calife fils de Haroun al-Rachid, qui a régné de 813 à 833. Ça, nous le savons, les acteurs eux-mêmes disent, c'est la première carte géographique arabe, qui était la réponse à une demande du politique pour connaître le territoire. Mais cette carte ne contient pas beaucoup d'innovations, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs dans une première phase. C'est une copie améliorée, enrichie, de la carte de Marinus qui va être connue à travers le livre de géographie de Ptolémée, deuxième siècle après Jésus-Christ. Bien. Et puis il y a une innovation qui est étonnante et qui arrive à ce moment-là, et qui est basée sur plutôt la récupération des savoir-faire. C'est l'algèbre. Bien, l'algèbre, la première manifestation d'une discipline en tant que telle, avec ses objets, avec ses outils, avec ses démonstrations, avec ses domaines d'application, bien, a eu lieu aussi entre 813 et 833. C'est toujours le fameux Al-Khawarizmi, qui a sévi avec le livre de calcul indien, mais où il n'est pas original, il le dit d'ailleurs. Il le dit, le zéro est indien, le système est indien, bien sûr. Quoi que vous diront les Européens plus tard, par ignorance d'ailleurs, au XIIe siècle. Mais par contre, on voit très bien que lorsqu'il dédie son livre d'algèbre à Al-Ma'mun, il donne l'impression dans l'introduction qu'il fait œuvre originale, du moins partiellement. Eh bien, la fécondité de la science dite arabe commence par cet acte fondateur, si j'ose dire, qui est que la science dite arabe n'est pas seulement un phénomène, ce qui est pas mal déjà, d'appropriation des savoirs anciens, d'assimilation de ces savoirs, de transmission de ces savoirs, on en parlera après, mais aussi c'est un acte de création.
Oui. Et le vocable algèbre est resté tel quel parce que le mot arabe est si dense et polysémique que Gérard de Crémon n'a pas su lequel choisir, donc il l'a gardé tel quel. Parce que c'est à la fois algèbre, c'est restauration, contrainte, réduction. Et donc, comme dans sa traduction, il n'a pas su lequel des trois sens il fallait prendre, il a laissé algèbre.
Alors, c'est une hypothèse raisonnable. C'est-à-dire que lui n'est pas un mathématicien. C'est un excellent traducteur. C'est le meilleur traducteur à notre connaissance du 12e, 13e siècle. Bien. Moi, je pense que il y a deux raisons à cela. Il y a la première raison qui est indiscutable, c'est que ne sachant pas comment traduire, ne connaissant pas la vraie signification qui est donnée dans le livre, mais il faut rentrer dans le détail du livre parce qu'il y a algèbre et il y a muqabala. Voilà. Eh bien, il préfère garder, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, il préfère garder le mot, comme d'ailleurs faisaient les traducteurs des pays d'islam depuis la fin du 8e siècle jusqu'au milieu du 10e, lorsqu'ils étaient embêtés dans la traduction d'un mot. Lorsque le premier traducteur qui a voulu traduire le mot parabole ou hyperbole, n'ayant pas su ce que cela signifiait en arabe parce que l'arabe scientifique n'existait pas encore, ils étaient en train de l'élaborer, et que le mot était formé en deux parties, eh bien, par prudence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Gérard de Crémone, mais avant lui. Eh bien, il a pas traduit. Il a dit barabola et hyperbola. Plus tard, 50 ans après, quand on a vraiment maîtrisé, les générations nouvelles ont maîtrisé le grec, ont maîtrisé le sens mathématique des mots, alors on a traduit par ce que nous savons aujourd'hui. Alors, donc, Gérard de Crémone, la première raison, c'est ce que vous avez dit. La deuxième raison, c'est peut-être lié à cette tradition qui était grecque, qui était universelle aussi chez les scientifiques, c'est que, par respect pour le savoir qu'on a pris au maître, lorsqu'on ne peut pas traduire ce qu'ils ont dit, on garde ce qu'ils ont dit avec les mots avec de leur langue. C'est une sorte de respect. Nous considérons que c'est plausible comme deuxième hypothèse. Voilà. Alors vous choisissez, l'auditeur choisit ce qu'il a.
Nos auditeurs choisiront. Ahmed Djebbar, pour rester encore quelques instants sur l'ouvrage de Al-Khawarizmi, alors on le latinise par l'algorithmus, il donnera son nom bien sûr à l'algorithme, c'était une innovation que de considérer que l'inconnu, la chose, qu'il faut lui donner plutôt une lettre et d'essayer de résoudre des problèmes qui se posent. Et donc, la notion d'équation a été mise, j'allais dire, en équation pour la première fois.
Alors, c'est sûr que c'est pour la première fois qu'apparaît l'équation en tant que telle et qu'elle est nommée. Parce qu'en science, un des obstacles qui rend prudent les chercheurs, c'est que tant que le créateur d'une notion, d'un outil, d'un concept surtout, ne l'a pas nommé, on est prudent pour savoir est-ce qu'il a pris conscience qu'il a découvert quelque chose. C'est très important. Parce que quand on le nomme, on prend position et on dit il y a un objet. Cet objet peut être technique, peut être conceptuel, peut être tout ce qu'on veut, etc., etc. Bien. Là, il nomme l'objet et il le décrit. Comme il nomme les objets de l'équation, c'est-à-dire les nombres, l'inconnu, le carré de l'inconnu. Il ne va pas plus loin. Il nomme l'équation en tant que telle. Il nomme les deux éléments de l'équation parce que dans les mathématiques jusqu'au XVIIe siècle, le zéro n'était pas un nombre. Et par conséquent, il ne fallait pas mettre zéro à droite. Il fallait mettre l'équation en deux parties. Par exemple, d carré plus l'inconnu ou trois fois l'inconnu égale un nombre. On dit jamais moins le nombre égale zéro. C'est une hérésie. D'abord une hérésie qu'avaient interdite les Grecs. Puis comme la culture dite arabe est une culture profondément grecque, donc il n'y a pas de problème, on interdit certaines choses, qui seront des éléments de blocage plus tard. Bien. Et donc, il nomme les choses, et puis surtout, il fait la distinction entre une théorie, si j'ose dire aujourd'hui, un ensemble d'objets, d'outils, et le domaine d'application. Cette séparation fait qu'il a pris conscience que une discipline, c'est à la fois les outils, les concepts et le domaine, évidemment, où on applique tout cela, c'est-à-dire le domaine de résolution, le domaine d'application. Alors lui, il a choisi le domaine d'application qui intéressait peut-être le calife ou l'élite qui était autour de lui. C'est un domaine lié aux héritages. Ben, forcément.
La dévolution successorale.
Voilà.
Ahmed Djebbar, la phase dite, on parle plus de l'éclosion et de l'émergence de la science, mais comment la langue arabe a été triturée pour qu'elle s'apprête si je puis dire, à la nomenclature et aux nouvelles appellations, parce que parfois il faut inventer aussi et donner des noms aux outils qu'on trouve. Là aussi, il va y avoir une phase et tout un travail pour lequel la langue elle-même va être mise au service de la science.
Alors, c'est une très bonne question. La réponse est difficile. Nous avons quelques éléments pour le moment. On constate d'abord que, dès le départ, les traducteurs ont senti qu'il y avait un blocage. Que la langue héritée de la période pré-islamique, qui est aussi la langue utilisée dans le Coran, sur le plan strictement technique, je veux dire, donc c'est une langue qui ne parlait pas de certains éléments, de la science en particulier, et de la technique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Première phase, lorsqu'il y a un blocage, on prend le terme technique, ou le terme conceptuel, ou théorique, de la langue du texte traduit, et on le garde. Mais on ne peut pas faire ça pour tout un texte. Pour le reste, pour la majorité, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, vont intervenir des acteurs fondamentaux, pour lesquels on n'a pas apprécié le rôle. Ce sont des hommes de lettres, ce sont des poètes, ce sont des littérateurs, ce sont des linguistes, qui vont chercher à étudier au 8e siècle, 9e siècle, la langue en tant que telle. La langue ancienne, avant la révélation, et pendant la révélation, elle est faite de quoi ? Et donc, ils vont étudier ce corpus de la langue en tant que telle, et on va inventer de nouvelles sciences, qui n'existaient pas puisque la langue était orale. On va inventer parallèlement. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier les sciences dites exactes des autres sciences qui vont les accompagner et les aider à se libérer. La grammaire, la morphologie, les règles de la prosodie, les règles de la métrique, la lexicographie et la linguistique au sens général. Eh bien, nous avons des noms très importants. Al-Khalil ibn Ahmed, Sibawayh, et tous les autres, tous les élèves, et puis tous les grands grammairiens, Ibn Dureid, Ibn Jenni, etc. Ça va continuer jusqu'à la fin du Xe siècle. Cet apport est fondamental. Pour la question que vous avez posée, comment il va apparaître cet apport ? Eh bien, les scientifiques vont demander à leurs collègues de leur donner des mots qui expriment telle idée dans un texte scientifique. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre les mots qui existaient, mais ils vont enrichir la langue, non pas en remplaçant des mots par d'autres mots qu'ils vont fabriquer, mais ils vont donner un nouveau sens aux mots qui avaient un premier sens, un deuxième sens. Voilà comment se fait l'enrichissement et la création d'une langue scientifique.
Oui, ça va dans les deux sens, si j'ose dire. Dans un cas, comme vous l'avez si bien dit, Ahmed Jabbar, on prend la notion telle qu'elle était dans la langue de départ, et l'exemple de la mécanique, c'est la science des procédés ingénieux.
Absolument.
Donc, parce que quand on fait une machination, on ruse, et il y a la mécanée, puis il y a la techné, ars. Donc, tout cela, on y revient, et on le traduit quasiment tel quel. Et puis, dans l'autre sens, ce travail d'ajouter des significations, des sens à la langue, va faire avancer les mathématiques dans le sens de l'analyse combinatoire.
Faut pas me lancer dans ce domaine parce que ce sont mes recherches. Je suis pas le seul. J'ai une partie de mes recherches en concerné la naissance et le développement. Je dirais pas d'une discipline comme l'algèbre parce qu'on n'a pas pris conscience que c'était une discipline. Voyez, on l'a pas nommée. Voyez, on revient toujours à la dénomination. Mais je dirais un chapitre nouveau. Il y a eu donc une discipline, l'algèbre. Une discipline, on l'a décrété, c'est la science du temps, pour des raisons religieuses. Par contre, pour la trigonométrie, c'est un chapitre, parce qu'on ne l'a pas nommé. La combinatoire, c'est un chapitre. Les carrés magiques, on les a nommés, mais on les a considérés comme chapitres de la théorie des nombres. Et ça a servi aux astrologues. Alors la combinatoire, ben, figurez-vous, effectivement, c'est parti de considérations qui n'ont rien à voir avec les préoccupations des mathématiciens. Ni du temps des Grecs, ni du temps de la civilisation et de l'islam. C'est des préoccupations linguistiques qui étaient que comment fabriquer un dictionnaire. Les Arabes n'avaient pas de dictionnaire jusqu'à la fin du 8e siècle. Or, fabriquer un dictionnaire, ce n'est pas si simple que ça. Il faut d'abord savoir la langue arabe et phonétique. Donc, quelles sont toutes les racines ? Elle est construite à partir de racines bilitaires, trilitaires, quadrilitaires, quintilitaires. 5 phonèmes. De 2 phonèmes à 5 phonèmes. Donc c'est une langue de son. Ensuite, il y a les voyelles qui compliquent les choses. Bien. Et donc, il fallait ne pas surtout rater des mots. surtout des mots qui ne sont pas connus à Bagdad, mais qui étaient usités bien avant. Parce que la langue arabe, elle fabrique, les hommes fabriquent les outils pour s'exprimer. Eh bien, il fallait trouver une méthode, donc scientifique, qui va devenir mathématique, pour n'oublier aucun mot du futur dictionnaire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le dénombrement, d'abord par énumération, puis ensuite c'était tellement compliqué d'énumérer, parce que vous savez, le nombre de phonèmes, jusqu'à 5 lettres, hein, eh bien, ça atteint pratiquement 100 000. Vous imaginez un professeur ou même un étudiant avoir cette corvée de compter jusqu'à 100 000 toutes les racines. Je ne parle pas des mots. Parce qu'après, les mots, la racine A, B, G, il y a B, A, G, il y a G, B, A. Donc il y a les permutations. Ensuite, il y a les répétitions des lettres. Il y a B, B, A, A, B, B. Enfin, bref, c'est kafkaïen.
Et fastidieux.
Et fastidieux. Donc il fallait une règle. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle la science exacte. Les mathématiques viennent et ils disent il faut trouver une formule qui donne par calcul exactement les combinaisons des n phonèmes, mais pas seulement 2 à 2 jusqu'à 5 à 5. Allez, les mathématiciens, quand ils prennent en charge un problème, c'est pour n quelconque et pour toutes les langues. Donc il y a cette dimension universelle des mathématiques qui partent d'un problème concret, local, particulier, culturels et qui le rendent universel, parce qu'ils répondent à toutes les questions de toutes les langues. Et c'est comme ça que ils vont d'abord se casser les dents, parce qu'ils ne trouveront pas le théorème, à ma connaissance. Le théorème ne va être établi qu'à la fin du XIIe siècle, et ce n'est pas à Bagdad pour une fois, à Marrakech, capitale du Maghreb à cette époque-là, de tout le Maghreb, et de l'Andalus.
Par un mathématicien,
Ibn Mun'im. Et l'élève de son élève, qui est Ibn al-Banna.
Al-Marrakouchi.
Ibn Mun'im est de l'Andalus, et Ibn Banna est né à Marrakech. Voilà.
Oui. Peut-être, si vous voulez bien, Ahmed Djebbar, un autre exemple, cette fois-ci, dans l'élaboration des tables, l'isige, et puis le fait de tabuler. C'était aussi une activité fastidieuse, dévolue aux étudiants, certes, mais c'était pour les tables astronomiques aussi.
Ah oui, absolument. Au début, c'était dévolu aux étudiants pour qu'ils comme un exercice, mais après non, c'était trop compliqué. Nous connaissons maintenant des tables, nous avons au moins une centaine de tables originales, plus d'une cinquantaine ont été étudiées très sérieusement par le grand professeur Kennedy, à qui je rends hommage, un de nos maîtres. C'est lui d'ailleurs le pionnier dans l'étude. Alors le mot zige est un mot persan qui veut dire tout simplement table astronomique ou même livre astronomique. Alors, à l'origine, il y avait des petites tables indiennes qui dépassait pas, je sais pas, 20 lignes. C'est les tables de sinus, parce que ce sont les Indiens qui ont inventé le concept de sinus. Et puis, il y a Ptolémée. Ptolémée, c'est le premier chez qui on trouve dans son fameux livre l'Almageste, ou la syntaxe mathématique, des tables très consistantes. Alors, ces tables concernent le mouvement des planètes visibles, en particulier. Et plus tard, dans la civilisation de l'islam, les tables vont concerner tous les domaines pour lesquels il est besoin de tabuler. Je ne dis pas plus parce que c'est une conférence entière. Ça va jusqu'à, en Égypte, on a trouvé des tables pour donner toutes les orientations nécessaires aux ventilateurs, parce qu'il fait très chaud au Caire, à l'orientation des ventilateurs pour qu'ils soient très efficaces. Et donc on a mis des tables. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'astronomie ni avec les mathématiques. Et bref, ces tables vont être tellement importantes, en particulier pour la détermination des moments des prières, pour le calendrier lunaire, pour la direction de la Mecque, parce que ça dépend de la latitude et de la longitude. Donc il faut des tables pour chaque ville importante de l'Empire musulman. Donc c'est un travail qui est pratiquement universel. Eh bien, ces tables-là, il va y avoir des dizaines et des dizaines dont les buts sont totalement différents les uns des autres.
Thank you. Nous sommes sur France Culture et dans l'émission Questions d'Islam, avec le professeur Ahmed Jabbar, et nous parlons de la science en contexte islamique. Vous avez évoqué, Ahmed Jabbar, les ventilateurs, et je ne m'empêche pas de penser à la production de l'énergie, puisque nos problèmes de tout temps, et notamment chez les physiciens, sont des problèmes énergétiques. Qu'est-ce qui faisait fonctionner les ventilateurs? À ce moment-là, l'idée des automates était encore maîtrisée, ou comment les ventilateurs fonctionnaient-ils?
Les ventilateurs, les moulins à grains.
Et les norias?
Les norias. Les
clepsydres.
Les clepsydres. Les manufactures de papier avaient besoin de mécanismes pour faire tourner l'instrument essentiel qui broyait ou qui tournait l'appareil ou qui malaxait le papier, etc., etc. Eh bien, il y avait le vent, donc il y avait la force éolienne, il y avait la force hydraulique. Et la force hydraulique des rivières et des fleuves, pas dans n'importe quel endroit, là où il y avait la plus grande force, et jusqu'à la marée. On a utilisé même la marée près de Bassora, à Bassora, parce que la marée est très forte, pour pouvoir faire marcher des mécanismes de différentes, évidemment,
des différents engins, voilà. Et
ça, nous le savons, ça a été étudié par Youssef Al-Hassan et Donald Hill, les deux grands derniers spécialistes de la mécanique arabe.
Ahmed Jabbar, peut-être quelques exemples sur cette contribution, notamment en mathématiques, mais ailleurs, l'extraction de la racine carrée, nous parlions tout à l'heure des problèmes de dévolution successorale et d'héritage, donc les fractions, le calcul fractionnaire, après on passe au calcul des nombres dits irrationnels, ça a évolué jusqu'à quand et puis ça a connu une stagnation à partir de quand?
C'est parti de ce qui existait déjà chez les Indiens et les Mésopotamiens comme calcul formel, disons, de ce qui est ce que sont les nouveaux objets quand on prend la racine carrée ou la racine cubique. Donc ce sont des calculs d'approximation. On a trouvé les algorithmes, les méthodes pour le faire. Mais l'apport le plus important sur le plan théorique, qui n'est pas dans la même orientation, c'est l'apport grec. En particulier, ce que l'on trouve dans le livre 5 des éléments d'Euclide, qui est la notion de rapport, qui permet que ce qui est en dessous de la barre de fraction mesure ce qui est au-dessus. Donc, le dénominateur mesure le numérateur. Mais à l'origine, c'est pas une fraction. C'est pas une fraction. C'est l'idée de mesurer quelque chose. Mesurer quoi? Ben, mesurer les choses qu'on n'arrive pas à mesurer convenablement. Précisément ce que vous avez appelé, justement, les grandeurs irrationnelles. Mais vous avez remarqué, j'utilise le terme grandeur. C'est-à-dire que j'utilise une terminologie géométrique. Donc, à l'origine, vous avez un segment qui est comme ça. Vous devez le mesurer avec des petits segments que vous décidez être des unités. Alors vous mesurez.
Comprends comme étalon.
Comme étalon. Mais vous n'arrivez pas à mesurer complètement. Ce n'est pas deux fois, trois fois, ce n'est pas le tiers, ce n'est pas le quart. À ce moment-là, vous tombez sur quelque chose qui est ce qu'on appelle le scandale des irrationnels. Donc vous trouvez que la diagonale du carré, ben, elle ne peut pas être mesurée par les unités qui mesurent les côtés du carré. Et commence donc toute une théorie géométrique, livre 5 et livre 10 surtout. Toutes les grandeurs irrationnelles qui vont être étudiées, synthétisées par Euclide au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'héritage qui va arriver aux premiers mathématiciens des pays d'islam. Cet héritage est encombrant. Parce que d'un côté, il y a un héritage indien-mésopotamien qui est relativement facile parce qu'on leur donne des techniques, ça s'appelle des algorithmes. On leur dit, vous utilisez ça, vous prenez les racines, ça marche. Ça marche à peu près. Bon, on ne cherche pas à comprendre. On trouve le résultat, on le met dans la machine. Il n'y a pas de contradiction, donc on dit c'est une bonne méthode. Les Grecs, eux, ont une fâcheuse tendance à vouloir démontrer que l'outil est valable, que l'algorithme marche avant de l'utiliser. Enfin, j'exagère à peine. Donc, ils avaient ce qu'on appelle une démarche hypothético-déductive. Les mathématiciens de l'islam vont plonger dedans parce qu'ils vont considérer que c'est la mathématique de très haut niveau, les mathématiques théoriques. Mais ce sont des pragmatiques aussi. Lorsqu'ils vont voir qu'il y a des méthodes beaucoup plus pratiques et qu'ils les éloignent du livre 5, du livre 10, eh bien, tout en disant de bonnes choses,
tout en les vénérant,
tout en vénérant les Grecs, bah, ils utilisaient les techniques mésopotamiennes et indiennes. Voilà, parce qu'il fallait régler les problèmes de la vie de tous les jours. Donc, il y a cet aspect-là.
Ils parlaient en bien des anciens.
Ah oui.
Et si j'ose dire, le mot salaf pouvait s'appliquer à eux, parce que c'était des anciens, Qodama l'Ighriq, c'est-à-dire les anciens Grecs dont il fallait suivre la science.
C'est pour les scientifiques de l'époque et les philosophes, c'était le vrai salafisme.
C'était ça, c'est ce que je voulais dire. Sans anachronisme.
Sans anachronisme, non. Juste parce que vous m'avez entraîné dans ce domaine.
C'est pour alors, ça que j'utilisais le terme.
Pour élargir un peu les contributions, moi, depuis un certain temps, j'étudie d'autres disciplines parce que je suis sollicité pour faire des conférences. Je suis à la retraite. Et donc, ce ne sont pas des domaines, mes domaines de recherche, mais j'utilise les recherches de mes collègues, heureusement. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que, par exemple, prenons l'exemple de la médecine, sur lesquels je ne pouvais rien dire il y a 15 ans. Mais ayant travaillé tous les articles, beaucoup d'articles qui ont été publiés par mes collègues, américains, européens, arabes, etc., on constate que, là aussi, on peut répondre à votre question du début, qui est, qu'est-ce qui fait la part de ce qui est appropriation, assimilation, transmission et innovation? Eh bien, en médecine, on peut résumer grosso modo que la médecine dite arabe est à 90% grecque, ou 80% grecque, 20% indienne, qu'elle va le rester pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle devienne d'ailleurs même, les concepts médicaux grecs vont être un obstacle pour aller plus loin. On parlera des obstacles après, internes à la science.
Il y a une part persane, des Bartichous ou d'autres.
Mais c'est une tradition essentiellement grecque, en fait, ou indienne. Ce sont des passeurs. Les persans sont essentiellement des passeurs. Voilà. Ils ont joué un très grand rôle. Mais en médecine, évidemment, il y a eu de très grands médecins, praticiens aussi. Eh bien, surtout, si on veut résumer la médecine dite arabe, de la période de la fin du 8e jusqu'au 16e siècle, il y a eu comme innovation la médecine hospitalière. La médecine hospitalière est un phénomène important qui va se développer en pays d'islam sur le plan quantitatif et qualitatif. Il y a la chirurgie. Il y a l'ophtalmologie. Et ces trois éléments, et j'en oublie, sont considérés aujourd'hui par les spécialistes de l'histoire de la médecine comme étant des apports importants de cette civilisation, sans rentrer dans les détails, sans parler de la chirurgie dentaire, etc., etc. Et on peut dire ça aussi de la physique. Alors, l'apport de la physique, c'est en particulier original, c'est essentiellement l'optique qu'on a évoqué tout à l'heure au début de l'émission. L'apport de l'astronomie, c'est évidemment toutes les tables astronomiques que nous avons évoquées. C'est aussi...
Et aussi les appellations, la nomenclature du ciel.
C'est la nomenclature, bon, héritée d'abord des Grecs et des Indiens, puis ensuite enrichie. Et c'est surtout un début de libération des astronomes vis-à-vis des modèles planétaires grecs pour essayer d'élaborer de nouveaux modèles. Et parmi ces modèles qui vont circuler en Europe, eh bien, ceux qui ont été créés pour la première fois par Nasser al-Din al-Tusi au XIIIe siècle, améliorés par Ibn Shatir, le fameux couple, et surtout les modèles de la Lune, etc., que va connaître Copernic. Ça n'a rien à voir avec l'héliocentrisme. Mais il y a un apport de l'astronomie classique, gréco-arabe, qui a eu lieu dans cet empire, et qui va enrichir les débuts de l'astronomie européenne.
Ahmed Djebbar, il ne nous reste que quelques minutes, hélas, et nous nous approchons du terme de l'émission. Peut-être un mathématicien que vous aimez bien, Qalasadi, Ibn Khulfoud, pour ne citer que l'un ou l'autre, dont vous pouvez nous dire en gros dans quel contexte a-t-il vécu, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, une dernière question, comment l'énigme absolue pour certains, après cet essor, comment la stagnation s'est-elle opérée en quelque sorte?
Moi j'ai des coups de cœur bien sûr en tant que chercheur, puisque j'ai eu le privilège pendant 40 ans de fréquenter des maîtres. Et de fréquenter aussi des gens qui n'étaient pas, des mathématiciens qui n'étaient pas de grands maîtres, mais qui étaient, disons, de bons mathématiciens, et puis des collègues comme nous, voilà, praticiens des mathématiques. Pour la région où je suis né, sentimentalement, je prendrai l'un des derniers qui a continué à être grec jusqu'au bout des doigts et à démontrer des choses. C'est Al-Uqbani, 14e, 15e siècle, à Tlemcen. Ce n'est pas un très grand mathématicien, mais c'est l'un des derniers qui a préservé, qui a défendu l'étendard de la mathématique hypothético-déductive. C'est quand même joli parce qu'on est au 14e où cette mathématique n'est pas encore complètement assimilée par les mathématiciens européens. Et il commence à peine, parce que les traductions ne sont pas finies, de l'arabe au latin et à l'hébreu. Bien. Je pourrais ajouter le grand Ibn Mun'im, qui évidemment est le promoteur du chapitre de la combinatoire. Mais sentimentalement, d'une manière tout à fait irrationnelle, liée à mon cheminement personnel, c'est Omar al-Khayyam, le grand mathématicien d'origine persane, donc qui est né, qui a vécu dans une ville qui était iranienne, qui est Nishapur. Et je ne peux pas vous expliquer, il faudrait que je fasse une émission uniquement littéraire pour dire comment j'ai rencontré de grands hommes, parce qu'on les rencontre. Même quand on ne croit pas à certaines choses, comme le rêve, etc., nous sommes un peu rationalistes, nous les mathématiciens, pas tous hein, quand même. Et donc, alors moi j'ai décidé que, ou j'ai eu l'illusion, ou j'ai vécu, je ne sais pas très bien, que j'ai rencontré Omar Khayyam. Et qu'il m'a reproché de ne pas m'occuper de son image médiatique, on dirait aujourd'hui. On ne fait pas assez de publicité pour ce monsieur. Eh bien, c'est peut-être inconsciemment, grâce à Omar Khayyam, que j'ai accepté d'aller 5 fois en Iran. Vous savez, les voyages, c'est très difficile. Les pays où vous ne connaissez pas la langue, malgré l'hospitalité qui était absolument extraordinaire en Iran, à la fois des citoyens, des chercheurs, même des responsables des universités. J'ai fait beaucoup de conférences. Mais je me souviens très bien qu'un jour, je leur ai dit, écoutez, maintenant, vous m'avez invité comme expert pour introduire l'histoire des sciences dans les manuels d'enseignement des sciences. Je souhaiterais, enfin, c'était une exigence diplomatiquement exposée, je souhaiterais aller déposer une fleur sur la tombe d'Omar Khayyam. Eh bien, j'ai été autorisé, je l'ai fait, et j'ai vu des couples de jeunes Iraniens qui, au lieu, comme au Maghreb, venir près d'un marabout pour souhaiter que leur mariage réussisse, ben, ils le faisaient sur la tombe d'un poète et d'un grand mathématicien. C'est très joli.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Ahmed Djebbar. Nous aurons la réponse à la seconde question plus tard. Vous reviendriez assurément. Merci de nous avoir édifiés par vos propos. C'était question d'islam. Et, chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal. La réalisation est assumée par Franck Lilin.